Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce contenu un peu spécial de La Chose Commune. Nous vous proposons une conférence en intégralité proposée par Serge Zaka, venu à Vendôme le 8 décembre dernier dans le cadre des soirées optimistes organisées par l'association Belle à Loire. Nous vous proposons également une interview enregistrée en amont de cette conférence, un entretien en tête-à-tête avec Serge Zaka qui apporte d'autres éléments et d'autres réponses en complément de cette conférence. Vous pouvez écouter les deux contenus sur la page de La Chose Commune sur le site de Studio Zef. Merci à tous et à toutes et bonne écoute de La Chose Commune.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette troisième conférence Belle à Loire, soirée optimiste. En deux mots, je ne vais pas vous embêter longtemps. Donc nous sommes trois issus des métiers du culturel, Sophie, Stéphane et moi-même. Et donc nous avons décidé d'essayer d'utiliser nos métiers du culturel pour essayer de sensibiliser le public sur notre avenir environnemental. On le sait tous, ce tableau s'assombrit tout doucement. Mais en même temps, en parallèle, beaucoup d'initiatives se mettent en place, des choses qui peuvent nous permettre d'anticiper le demain. Quand je dis demain, c'est parce que Serge vous en parlera tout à l'heure, mais bon, bref, vous le savez, on chauffe. Bref, je ne vous embête pas plus longtemps. Serge est juste derrière moi, prêt à vous parler de plein de choses intéressantes.
Merci pour cette introduction et merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ce soir à Vendôme pour vous parler du changement climatique. Alors, c'est vrai que quand on m'a invité, qu'on m'a dit que c'est soirée optimiste, je me suis dit, moi, Serge Zaka, optimiste. Et en fait, en réfléchissant, j'ai beaucoup évolué dans mon discours ces derniers mois. Eh bien, en réalité, quand on parle de l'agriculture, on a quand même énormément de solutions et d'adaptations pour faire face au changement climatique. Et je voudrais que vous ressortiez de cette salle tout à l'heure en vous disant, on ne va pas mourir de faim. On ne va pas mourir de faim, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà pratiquées sur le terrain, qu'il faut bien sûr étendre à d'autres territoires, mais on ne va pas mourir de faim. C'est un petit peu mon objectif de ce soir. Alors il y a bien sûr des éléments négatifs qu'il ne faut pas masquer, on n'est pas là pour se voiler la face et se dire tout va bien, on va être les rois du pétrole, enfin plutôt, pas du pétrole, mais plutôt de l'électricité ou de l'hydrogène ou de je ne sais quoi dans l'avenir. Non, l'objectif c'est quand même de voir la réalité en face, mais avec cette réalité, de voir qu'il y a des solutions pour l'agriculture. Alors je suis Serge Zaka, on l'a dit tout à l'heure, je suis docteur en agroclimatologie, je définirai le terme bien sûr tout à l'heure, parce que je sais qu'en face de moi je n'ai pas forcément des agriculteurs ou des viticulteurs comme j'ai l'habitude d'avoir. Donc je vais employer des termes assez simplifiés, on va dire, mais que je n'emploierai pas forcément devant un public habitué. Je suis également chasseur d'orages, donc les photos que vous voyez ici, dont celle-là, c'est ce que je fais la nuit. La nuit, je chasse l'orage, je fais des photographies d'orage, et le jour, je fais de l'agroclimatologie. Je ne dors pas très souvent, surtout que je viens d'avoir un enfant depuis 2 semaines, donc je dors encore moins, mais j'assume, et c'est un choix de vie, voilà. Donc on va parler de l'agriculture du côté du Loir et Cher. Alors on va faire un sommaire assez basique, je vais faire 2 définitions, c'est une présentation scientifique. Donc on va parler de climatologie, c'est-à-dire de l'étude de l'évolution du climat, et puis ensuite on va, avec ces connaissances de climatologie, l'appliquer à l'agriculture, on va faire de l'agroclimatologie, c'est la science qui étudie l'impact du climat sur l'agriculture. Alors j'ai pris des données locales, puisque prendre la moyenne entre Brest, Lille et Marseille, ça ne veut rien dire pour un agriculteur. J'ai vraiment pris des données locales et des cultures locales. Et si on a le temps, on va aborder quelques questions sociétales sur la viande, le local et les gaspillages alimentaires. Alors, quelques prérequis sur l'agroclimatologie. On commence par l'agrométéorologie. Qu'est-ce que l'agrométéorologie ? L'agrométéorologie, c'est l'impact de la météo sur l'agriculture. Si vous êtes agriculteur, tous les jours, vous posez la question quel est le temps qu'il fait dans la semaine ou les jours à venir, et vous vous dites il faut que j'adapte mes pratiques en fonction du temps qu'il va faire. C'est-à-dire que si j'ai des pommiers qui sont en floraison, s'il y a du gel qui est prévu, il faut que je protège mes pommiers. S'il y a par exemple de la grêle qui est prévue, il faut que je mette mes filets anti-grêle au-dessus de mes arbres. Si par exemple il y a une sécheresse qui est en cours, est-ce que je dois irriguer ou non ma culture ? Ça, c'est des actions, décisions court terme pour l'agriculteur, c'est ce qu'il fait tous les jours. Aujourd'hui, on va faire autre chose, on va faire de l'agroclimatologie. En gros, c'est quelle culture je vais cultiver ici en 2070? Où va évoluer la production de mon camembert en 2080? Est-ce que j'aurai toujours des abricots du côté du Roussillon en 2090? Ou est-ce qu'on parlera toujours des pruneaux d'Agen en 2070? Ça, c'est de l'agroclimatologie, c'est plus des décisions socio-économiques et politiques long terme. Et dans la présentation, j'ai repris les scénarios du GIEC. Alors je commence déjà par faire un retour sur ce qui s'est passé ces dernières années. Si vous avez un verger, vous êtes peut-être conscient de ce qui s'est passé ces dernières années. Alors en 2021, on a eu un épisode de froid assez exceptionnel sur la France. Vous avez ici le globe avec une descente d'air froid qui a concerné la France début avril. Les jours sont là-haut. Et vous voyez, sur la France, on était dans la douceur avant, dans l'orange. C'est-à-dire que les végétaux ont subi une période de douceur avant une descente d'air froid. Donc les bourgeons se sont crus au printemps, ont débourré, donc ils ont ouvert. Et après, avec la descente d'air froid, on a eu des brûlures sur ces bourgeons-là. Donc 4 milliards d'euros de pertes, c'est la plus grosse catastrophe agricole nationale depuis 1945, depuis l'agriculture moderne. Avec des rendements qui sont descendus jusqu'à moins 59% pour la prune, la poire, on a eu également moins 30% pour la vigne, avec des pertes massives au niveau de nos régions. Alors l'objectif, ça va être de voir si ça va évoluer positivement ou négativement avec le changement climatique. Maintenant, je fais un retour sur 2022. En 2022, on avait une situation météorologique qui était différente. On avait une dépression au large du Portugal. Vous avez une remontée d'air chaud qui était présente la plupart de l'année, d'ailleurs, parce que cette dépression est restée une très grande partie de l'année au large du Portugal et qui a apporté des vents de sud. Des vents de sud qui ont provoqué forcément une hausse de la température. L'année 2022, en France, c'est l'année la plus chaude jamais observée. La deuxième année la plus chaude, c'était 2020, maintenant c'est 2023. Après, en troisième, on a 2020, et puis en quatrième, on a 2018. Et quand vous, ici, sur l'ensemble du globe, vous avez les endroits, ici, en rouge foncé, où l'année 2022 a été la plus chaude. Donc il y a toute l'Europe de l'Ouest, un peu du côté de l'Asie, un petit peu au large de l'Australie, et vous avez en bleu foncé, là où ça a été l'année la plus froide depuis 1900, c'est ce petit point bleu au large du Pérou, parce qu'on avait El Niño l'an dernier, maintenant on a El Niño, c'est l'inverse. Donc vous avez ce déséquilibre de record de chaud et record de froid qui est caractéristique du changement climatique. Alors c'était l'année la plus chaude et la deuxième année la plus sèche. Vous avez ici l'indice hydrique des sols. Pour les scientifiques, c'est le nom qu'on donne à la sécheresse. Donc, sur BFM TV, vous entendrez sécheresse et pas indice hydrique des sols. Donc vous avez donc cette carte-là qui montre, en fait, on est très largement dans le rouge, qu'on avait des indices hydriques des sols sur toute la France très présents. Une sécheresse très installée en France, qui a eu du mal à sortir en 2023, mais maintenant, vous le savez très bien, on en est sorti depuis à peu près 2 mois. Et donc forcément, on a eu des pertes de rendement. On a perdu plus de la moitié de la récolte de maïs dans le sud-ouest de la France, avec ces épisodes de sécheresse et de canicule. Pour le blé, par contre, malgré ces épisodes de sécheresse et de canicule, on a eu des hausses de rendement dans le nord et une diminution dans le sud. Je vous l'expliquerai tout à l'heure pourquoi on avait une disparité spatiale comme celle-ci. Et si je prends dans la région centre, donc ce qui nous concerne ici, vous avez ici la plupart des cultures principales qui sont cultivées en grande culture. Colza d'hiver, oléagineux, ce sont les seuls qui s'en sont sortis. Puis après, tout le reste, on est en perte de rendement par rapport aux 5 dernières années. Donc mon objectif de la présentation, ça va être pas de voir ces pertes de rendement, mais ça va être de voir comment s'affranchir de ces pertes de rendement, puisque d'ici 2050, 2022 sera une année normale. Vous avez ici sur cette figure de 1850 jusqu'à 2100 les températures observées et anticipées. Les points, ce sont les observations par nos thermomètres français. Le point violet, c'est 2022, c'est l'observation par les thermomètres en 2022, et vous avez en rouge les prévisions du GIEC, donc qui se continuent après 2022. Donc quand je prends 2022, qui est un pic vers le haut pour l'instant, jusqu'à ce que je vois 2023. Donc on va dire que 2022 et 2023 sont un pic vers le haut. Et quand on projette sur les provisions, les projections du GIEC, on tombe sur 2050. Donc 2022, en 2050, ce sera une année normale. Donc on a encore 30 ans pour s'affranchir de ces pertes de rendement que je vous ai montrées précédemment. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et avant de faire ça, on va regarder les évolutions climatiques jusqu'en 2100. Souvent, on relie la sécheresse à la pluie. S'il y a moins de pluie, il y a plus de sécheresse. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Parce que si, par exemple, il y a un orage qui tombe, Beaucoup de pluie tombe d'un coup, mais le sol n'a pas le temps d'absorber cette eau, donc il y a beaucoup d'eau qui va ruisseler, qui va partir. Une partie qui va s'infiltrer, une partie qui va être absorbée par la plante. Et ensuite, on a de la perte par transpiration et évaporation. Donc la quantité de pluie qui tombe, il n'y a qu'une fraction de cette pluie qui va aller dans le sol. Et l'objectif, ça doit être d'augmenter cette fraction-là pour qu'elle aille dans le sol par des pratiques culturelles qui vont être différentes. Depuis 1961, du côté du Loir-et-Cher, il y a plus de pluie. Il pleut plus à l'année dans le Loir-et-Cher, il pleut plus en Alsace, il pleut plus en Bretagne, il pleut plus en Picardie, dans les Hauts-de-France. Sur 75% du territoire français, il y a plus de pluie qui tombe sur l'année, et pourtant, on parle tout le temps de sécheresse aux infos. Alors certes, dans le sud de la France, là où, d'où je viens, oui, il y a moins de pluie à l'année, donc il est normal qu'il y ait plus de sécheresse. Donc je vous ai dit qu'il y avait plus de pluie, mais dans le même temps, il y a plus de sécheresse où c'est stable. Donc on arrive à avoir plus de pluie dans le centre de la France, mais avoir plus 1% de sécheresse agricole. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais quand on s'attend à avoir plus de pluie, on s'attend à avoir moins de sécheresse. Et là, c'est pas le cas. En Alsace, on avait plus 10% de pluie, mais en même temps, on a plus 10% de sécheresse. Faut quand même comprendre comment on peut avoir plus de sécheresse avec plus de pluie. Et je vais vous expliquer ça. En fait, il ne faut pas regarder ce qui se passe au niveau de l'année avec le changement climatique, il faut regarder ce qui se passe au niveau des saisons. Ici, vous avez la cartographie des précipitations avec plus 3 degrés de température moyenne dans le monde, en hiver, en été. L'hiver, quand on est dans le bleu, c'est qu'il y a plus de pluie qui est attendue. En été, quand on est dans l'orange, c'est qu'il y a moins de pluie qui est attendue. Ça veut dire que quand je somme les deux cartes ici, vous avez plus de pluie qui est attendue dans le Loir-et-Cher en hiver, mais moins de pluie en été. Donc sur l'année, on a la même quantité de pluie qui tombe, mais elle n'est pas répartie de la même façon sur l'année. Et vous me voyez venir, l'agriculture, ce n'est pas en hiver qu'on produit le plus, c'est surtout en été, c'est pour ça qu'on a des surfaces en sécheresse agricole de plus en plus importantes avec plus de pluie. Donc quand je regarde l'indice hydrique des sols, donc la sécheresse, vous avez ici l'hiver du passé et l'hiver du futur. Dans le Loir-et-Cher, il n'y a pas trop de différence de sécheresse en hiver. Il va tomber toujours de l'eau en hiver, comme je l'ai dit, voire même un peu plus. Donc il n'y aura pas de sécheresse forcément tous les ans en hiver en moyenne. Par contre, si je prends l'été, et là ça se voit très bien, on a un indice hydrique des sols, donc une sécheresse qui est beaucoup plus présente sur l'ensemble de la France, Loir-et-Cher compris, du fait de la baisse des précipitations. Comme je vous ai dit, il pleut moins. Il fait plus chaud aussi, donc l'évaporation et la transpiration augmentent, ce qui repart dans l'air. Et en plus, avec des orages plus violents, puisque l'intensité des pluies augmente, et il y a plus de ruissellement, c'est que l'eau n'a pas le temps de rentrer dans le sol. Donc un météorologue va la comptabiliser comme de l'eau qui tombe du ciel, mais un agroclimatologue va dire oui, mais j'ai que 5% qui est rentré dans le sol parce qu'elle arrivait trop vite. Et la plupart a ruisselé et a inondé les darties et les carrefours qui se sont construits là où il ne fallait pas. La température, maintenant, on a vu les précipitations. Donc la température. Alors la température en France, elle est montée de 1,7 degré depuis 1959. Ça, c'est une figure que vous connaissez tous. Voilà, c'est le réchauffement climatique. Et si je prends du côté de Blois, même si j'aurais pris du côté de Vendôme, c'est exactement pareil. Vous avez ici la hausse des températures et ce qui est attendu suivant les scénarios climatiques avec les couleurs, donc le rouge le plus fort, qui est attendu. Donc s'il n'y a pas d'action climatique, on atteindra les 16 degrés de température moyenne d'ici la fin du siècle, ce qui correspond à la température moyenne de Barcelone. Vous allez me dire, puisque c'est une soirée optimiste, c'est super pour le tourisme, on pourra prendre des verres en terrasse et puis profiter des futurs vins qui seront présents dans la région. Mais pour l'agriculture et pour les écosystèmes, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Donc maintenant, si je regarde l'évolution de l'aire de répartition des espèces forestières. Alors vous allez me dire, on est censé parler d'agriculture, mais vous savez très bien, quand vous descendez dans le sud de la France, il y a de la garrigue. Il y a des espèces, le chêne vert méditerranéen, la lavande, le thym, le romarin, les cigales, le ricard, la pétanque et tout ça. C'est chez moi, dans le sud de la France. Vous êtes bien invités là-bas. En fait, c'est représentatif d'un paysage, la garrigue. Mais ce paysage est aussi associé à une agriculture. La vigne, l'olive, la figue. Enfin, vous n'allez pas trouver des oliviers à Blois. Pas pour l'instant, mais peut-être dans l'avenir. Mais en fait, ces paysages sont représentatifs d'une agriculture. Donc ici, du côté de Blois, on est dans l'orange qui représente le groupe châtaignier. Dans vos forêts, on retrouve des châtaigniers. Ces châtaigniers sont associés à une agriculture du lait, du blé, du colza, du maïs. Dans la partie orange, la partie aquitaine, on retrouve un petit peu plus de maïs, on retrouve cette fois-ci de la vigne, on retrouve du kiwi, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans notre région. Et quand on regarde 2000, 2050 et 2100, on voit que ces zones de répartition des forêts remontent puisque le climat remonte. Et donc la garrigue remonte vers Lyon, la garrigue remonte vers Toulouse. La garrigue pourrait atteindre le sud de la région centre d'ici 2100. Et en tout cas, d'ici 2050 et 2100, ce sera plutôt le climat aquitain qui sera présent sur la région. Donc, qui dit climat aquitain dit évolution de l'agriculture en parallèle. Donc l'agriculture va forcément, les paysages vont évoluer, l'agriculture va évoluer. Donc je vous ai parlé des moyennes annuelles, de l'aire de répartition des espèces, mais ce qui nous intéresse aussi en agriculture et aussi pour vous en tant qu'humain, ce sont les extrêmes. Et les extrêmes en température, on appelle ça des canicules. Donc j'ai sorti chez Météo France les canicules depuis 1940 jusqu'en 2023. 2003, 17 000 morts, c'est la canicule la plus intense qu'on a eue jusqu'à présent. Et ce qu'on peut voir depuis... avant les années 2000, il y avait déjà des canicules. Donc le changement climatique n'a pas créé ces canicules, elles étaient présentes. Mais on parlait de risque de canicule, puisqu'on en avait en moyenne une tous les 5 ans. Tandis que depuis les années 2000, vous voyez bien que maintenant on ne parle plus de risque de canicule, mais on parle de saison des canicules, parce qu'on sait très bien qu'on aura au moins une canicule durant l'année, avec un beau record en 2022 où on en a eu 3. Voilà donc une fréquence et une intensité qui est à la hausse, et quand je regarde le nombre de jours à 35 degrés, très important en agriculture, parce qu'à 35 degrés, le maïs a des problèmes de pollinisation. À 35 degrés, on peut avoir des pertes de feuilles sur les tomates, des pertes de fleurs sur les tomates, donc des pertes de tomates, des pertes de fleurs sur la courgette, des brûlures qui commencent à apparaître sur la vigne. Donc 35 degrés, pour nous, c'est un seuil très important. Et donc quand on regarde le nombre de jours à 35 degrés entre 1960 et 1980 et 2080-2100, donc un siècle plus tard, toute la carte est verte, ça veut dire qu'on est à peu près à un jour, voire deux jours en moyenne, au-dessus de 35 degrés par an. Bah, dans l'avenir, on sera autour des 20 à 25 jours au-dessus des 35 degrés dans la région. Donc à la fois une moyenne annuelle qui change, donc de l'aire de répartition des cultures qui change, mais aussi des extrêmes qu'il faudra prendre en compte. Et pour se rafraîchir après ces canicules, on va parler du gel. Alors en parlant du gel, je reprends la même carte que les 35 degrés, je la transpose aux températures inférieures à zéro, bah forcément, il y a moins de gel. On avait à peu près 50 jours par an de gel du côté de Blois, du côté de Vendôme. On descendra à peu près aux 20 d'ici la fin du siècle, donc on divise plus que par deux le risque de gel. Vous allez me dire, c'est vachement intéressant, parce que du coup je pourrais planter des bananiers. Mais en réalité, le gel il contrôle aussi la pression des maladies. Parce que quand il gèle en hiver, ça tue les œufs des pucerons, ça tue les spores des champignons, etc. Et donc ça évite qu'au printemps, on a directement des maladies qui arrivent avec les beaux jours, parce que bah, ça régule en fait ces populations de maladies. Maintenant, on va passer à l'agriculture. Donc j'ai fini ma partie climato. Vous pourrez me poser des questions à la fin à ce sujet, si vous en avez. Et on va passer vraiment à la partie agricole et alimentation. Je commence par le blé, et vous avez ici le rendement du blé. Donc le rendement, c'est le poids qu'on récolte par hectare de grains depuis 1815 jusqu'en 2023. Figure historique, donc on remonte à l'époque de Napoléon, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on a fait une révolution agricole, on a multiplié les rendements par 7, c'est ce qu'on appelle la révolution verte. La chimie, la génétique, la mécanisation, maintenant il y a le numérique. Donc bien sûr, avec maintenant des aspects environnementaux qui sont de plus en plus pris en compte dans cette révolution, on ne pourra pas produire éternellement plus. Mais depuis les années 2000, on a une stabilisation des rendements du blé. Pourtant, il y a toujours de plus en plus de variétés, de plus en plus d'améliorations chimiques, de plus en plus d'améliorations, enfin on appelle ça le progrès, avec de plus en plus d'impacts environnementaux, ceci dit. Donc les chercheurs se sont penchés sur cette question, ils se sont dit, mais comment avec plus de progrès, entre guillemets, on peut avoir un rendement qui se stabilise. Et donc ils ont remodélisé un petit peu ce qui se passait et ils ont déterminé qu'on avait une très forte hausse des sécheresses et une très forte hausse des fortes températures pendant que le grain du blé doit grossir. C'est la période de remplissage du grain. Et cette période de remplissage du grain, le blé est particulièrement sensible quand il n'y a pas d'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de flux de sève, et s'il n'y a pas de flux de sève, le grain ne peut pas grossir. Et donc c'est pour ça que le rendement a tendance à se stabiliser, parce que le changement climatique a tendance à inhiber le progrès qu'on accomplit en agronomie. Donc je me suis dit, je vais regarder sur la carte des températures de l'échaudage du blé, l'échaudage du blé définition, c'est quand on est au-dessus de 25 degrés pendant le remplissage du grain. Au-dessus de 25 degrés, le remplissage du grain ralentit, donc le rendement va diminuer. Donc voici la carte. On avait à peu près 15-20 jours au-dessus des 25 degrés pendant le mois de mai-juin et début juillet. Et d'ici 2080, on aura plutôt 30 à 50 jours au-dessus des 25 degrés. Donc cette pression sur le blé s'accentue, notamment au niveau des températures. Pour la sécheresse, je vous ai montré tout à l'heure, il y a une accentuation des périodes de sécheresse, forcément. Pourtant, première bonne nouvelle après toutes ces mauvaises nouvelles, le rendement du blé ne va pas diminuer dans le nord de la France malgré ces pressions climatiques. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, après tout ce que j'ai dit sur les sécheresses et les canicules, pour en arriver à dire que le rendement du blé va rester stable, voire en légère hausse dans le nord de la France? C'est simplement qu'en fait, dans toute cette analyse, je n'ai pas pris en compte le CO2. Le CO2, pour les végétaux, c'est un fertilisant, parce que le végétal a besoin du CO2 pour faire sa photosynthèse, faire du sucre et relarguer de l'oxygène. Donc plus il y a de CO2 dans l'air, plus la photosynthèse est rapide et plus le végétal va pousser rapidement et faire du rendement. Ce n'est pas une raison pour polluer. Vous n'allez pas tourner autour des champs avec votre voiture en disant « je fertilise mon blé, tout va bien ». Eh bien, c'est qu'en réalité, s'il n'y a pas d'eau, la plante ne peut pas utiliser ce CO2, faire de la photosynthèse pour faire de la croissance. Donc là, ce qu'on voit dans le nord de la France, c'est que la sécheresse arrivera un petit peu plus tard dans le printemps. La plante a le temps d'utiliser le CO2 avant l'arrivée de la sécheresse, donc l'effet est positif. L'effet positif du CO2 prime sur l'effet négatif des sécheresses. Dans le sud de la France, par contre, là, on va avoir des sécheresses qui seront plus présentes. Et donc là, c'est plutôt l'effet des sécheresses négatives qui va primer sur l'effet positif du CO2. Donc on aura une hausse des rendements. Et ici, dans la région, on aura plutôt eu des rendements stables parce que vous êtes exactement autour de la limite de ces rendements. Dans le nord de l'Europe, on va observer des hausses de rendement. Et dans le sud, on va observer des baisses de rendement. Et c'est là où ça devient important par rapport à notre alimentation. C'est que du coup, la géopolitique du blé va complètement être modifiée. Nous qui étions les premiers producteurs à une certaine période, on ne sera plus forcément les premiers producteurs. Le sud de la France va perdre du rendement, le nord va en gagner, mais ceci dit, on ne sera plus forcément les premiers producteurs. Notre production de blé va se produire en Ukraine, en Pologne et en Russie. Eux, c'est des événements positifs qui vont arriver. Il fera moins froid, ils pourront planter plus tôt, la période de culture s'allonge parce qu'il y a moins de gel. Et en plus de cela, ils structurent les filières agricoles, donc la puissance un petit peu de leur agriculture. Et donc, ça sera la Russie, et la Pologne et l'Ukraine, nos premiers producteurs de blé. Et c'est déjà le cas, la Russie est passée première productrice de blé. Malheureusement, livrer notre blé à la Russie, ce n'est pas forcément la meilleure des nouvelles en ce moment. Mais qui sait, d'ici 20 ans, il y aura peut-être un président LGBT+, qui fera des câlins à tout le monde et qui pourra résoudre la famine dans le monde. On a dit que c'était soirée optimiste. Alors vous avez ici... En parlant d'optimisme, je vous ai dit qu'il y avait énormément de solutions pour faire face à ces pertes de rendement, et en réalité, il y en a beaucoup. Toutes ces solutions sont complémentaires, j'en ai mis que quelques-unes, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a des solutions génétiques. Déjà, premièrement, des recherches génétiques, alors je ne parle pas d'OGM, je parle de la recherche classique en Europe, par rapport à la résistance aux sécheresses, notamment l'amélioration du port racinaire, donc de la forme de la racine pour aller chercher l'eau en profondeur. La résistance à la canicule. Il y a également des diversifications qui sont possibles. Pour le blé, ce n'est pas forcément intéressant parce que le rendement va rester stable dans la région, mais pour le maïs notamment, on pourrait passer à d'autres cultures parce que le maïs va plus subir les effets, on le verra plus tard. Ensuite, on a des effets terre à terre de bon sens paysan, décaler les dates de semis pour éviter certaines périodes de risque climatique, et l'agriculture de conservation des sols, qui est une agriculture qui met le sol, la fertilité du sol, la réserve utile en eau du sol, la capacité en eau du sol à capter l'eau, au centre des intérêts agricoles. Le sol ne doit pas juste être un support pour la plante et puis on lui apporte des produits pour compenser la baisse de la fertilité. Le sol doit lui-même produire sa fertilité. Donc c'est-à-dire qu'on peut arriver sur d'autres pratiques agricoles, moins de labour, plus de couverts, donc des cultures entre les cultures pour éviter que le sol soit tout nu, exposé au soleil, au vent, au ruissellement, à tout ce que vous voulez. On met des plantes, des fleurs, pour éviter que le sol soit nu. On a également le stockage du carbone qui est important dans ce cas-là, puisqu'en faisant de la photosynthèse tout le long de l'année, sans que le sol soit nu une seule seconde, on récupère toujours en continu du carbone. Et l'agriculture a un rôle important, c'est le stockage du carbone. C'est la seule technologie qui est la photosynthèse, qui est une technologie naturelle. de récupérer du carbone de l'air. Ensuite, on a des aspects numériques, donc ça dépend un petit peu de la sensibilité de chaque agriculteur, et des aspects paysages, donc l'agroforesterie, plus de haies pour couper le vent, éviter l'évapotranspiration, et il y a aussi des effets bénéfiques sur les écosystèmes, etc., etc. L'hydrologie régénérative, on en parle de plus en plus, c'est la gestion de l'eau au niveau d'un territoire. Si par exemple vous avez une pente avec des accumulations d'eau en fond de vallée, mettez des haies perpendiculaires à la pente pour éviter que ça dévale la pente, pour ralentir la course de l'eau avec les arbres, pour permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol et éviter que tout s'accumule au fond. Voilà, tout ça, ce sont des solutions qui sont extrêmement importantes pour l'agriculture. Et encore une fois, c'est pour ça que je reste positif par rapport à la situation, c'est qu'on a plein de cartes à mettre sur la table avant de dire qu'on va mourir de faim. Je passe maintenant au maïs, en parlant de mourir de faim. Contrairement au blé qu'on récolte en juillet, le maïs, on le récolte en septembre. Donc il va se taper toutes les canicules de juillet, de août et de septembre, en plus du blé. C'est pour ça qu'il est extrêmement sensible aux canicules estivales. En plus de cela, la hausse de la température provoque une forte évaporation, donc il aura besoin de plus d'eau. Et en plus de cela, le pauvre petit maïs, eh bien, je vous ai dit qu'avec le blé, plus de CO2, plus de croissance. Le maïs, ce n'est pas le cas. Le maïs, sa structure de la feuille, quelle que soit sa concentration de CO2 atmosphérique, il ne va pas pousser plus vite. Donc il n'y a que les effets négatifs de la sécheresse qui priment et les effets des fortes températures. Donc au final, le maïs, lui, va subir des pertes de rendement rapides dans le sud de la France. Dans le nord, vu qu'il a mis à la chaleur, au début, il va bien aimer la hausse de la température, puis on va passer sur des températures trop chaudes, et là, on aura de nouveau une diminution. Donc pour le maïs, quand je vous ai montré les solutions et adaptations du blé, pour le maïs, on aura plus une solution de changement d'espèce. C'est-à-dire qu'on pourra cultiver autre chose qui soit plus résistant aux sécheresses et aux canicules. Quand on regarde l'évolution au niveau du continent, donc je vous ai dit c'est une espèce estivale qu'on pousse en été. Et bien ici vous avez la façade atlantique avec l'assaut des différentes précipitations, des dépressions. Donc le maïs aura toujours un rendement suffisant sur cette partie-là, tandis qu'on va perdre énormément de rendement sur l'Est, beaucoup plus sec, et sur l'Espagne qui se désertifie malheureusement avec le changement climatique. Le changement climatique n'est pas seulement des pertes de rendement, comme je vous ai dit, c'est le cas du colza. Le colza, lui, a des racines qui sont beaucoup plus profondes. En plus de cela, il profite de la hausse du CO2. Et en plus de cela, il y a encore quelques marges génétiques d'amélioration. Donc pour le colza, pour le nord de la France, on s'attend à une hausse des rendements, puisqu'étant donné qu'il a des racines plus profondes, il va chercher l'eau en profondeur, donc il est moins sensible à la sécheresse, donc il y aura l'effet positif du CO2. Dans le sud de la France, on a toujours ces sécheresses plus importantes, donc une stabilisation, voire une légère baisse des rendements. Mais c'est pour ça qu'en 2022, la seule culture qui s'en est sortie qui a eu des hausses de rendement, c'est le colza. Donc il y aura toujours du colza dans la région, dans l'avenir. De même, je ne l'ai pas mis, mais pour le tournesol. Et il y aura d'autres cultures prospectives qu'on va voir jusqu'à présent. Parce que pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai parlé du climat. Je vous ai parlé des cultures telles qu'elles sont actuellement sur le territoire. Mais qui vous dit qu'en 2050, il y aura toujours les mêmes cultures? C'est là où on va regarder des choses un petit peu plus intéressantes, beaucoup plus adaptatives, qui sont les évolutions de la biogéographie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'évolution de la biogéographie, de l'aire de répartition des cultures. Donc ici, c'est la biogéographie du chêne méditerranéen, le chêne vert méditerranéen. Donc ici, en 2000-2100, le chêne vert méditerranéen remonte. Il emporte avec lui de nouvelles opportunités comme la pistache, la grenade, la nef, la figue, l'olive, donc de nouvelles opportunités, notamment dans le sud-ouest de la France. Le maïs va commencer à diminuer, de moins en moins rentable, puisqu'il y aura de moins en moins de rendement, mais on pourra remplacer par d'autres cultures, et on a tout intérêt à le faire bien en amont de 2050. Dans le même temps, il y a des espèces d'arbres qui disparaissent aussi avec de l'agriculture. Le hêtre, comme par exemple le hêtre qui est très tempéré, va être relégué cette fois-ci vers l'Allemagne, et il va prendre avec lui des cultures qui sont associées au hêtre, comme le pois protéagineux, qui est très sensible aux sécheresses, ou comme d'autres cultures qui pourront remonter et disparaître de la région. Mais ceci dit, dans les zones de steppe et de savane qu'on retrouve généralement en Espagne, il y a de l'olive, de la figue, de la nef, de la figue, de barbarie, de la tomate, des cacahuètes, de la pistache, du pois chiche, caprin, ovin en altitude, abricot en altitude, blé d'hiver, dattes, agrumes. J'ai fait exprès de vous faire toute la liste pour vous dire qu'il y a de l'agriculture dans ces régions-là. C'est juste qu'il faut savoir aussi anticiper l'arrivée de ces nouvelles cultures pour éviter des pertes massives de rendement sur des cultures qui sont plus forcément adaptées. Donc il faut anticiper. Du côté de Toulouse, on aura tous les légumes du soleil, le sorgho, le colza, le tournesol, le blé dur d'hiver seront toujours présents. Alors je sais qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer avec le vin. Parce qu'en tant que bon français, vous voulez connaître la biogéographie de la vigne. Vous avez ici en rouge la biogéographie de la vigne actuelle et en bleu la biogéographie de la vigne à partir de 2050. Donc déjà, on est dans une zone de biogéographie de la vigne. Les vins que vous avez actuellement dans la région du côté de Vendôme ne sont peut-être pas très bons, mais ils le seront plus bons dans l'avenir. Alors désolé s'il y a des vignerons dans le coin. Il y aura de nouveaux cépages qui vont arriver par le sud, de nouvelles opportunités pour la vigne, qui est une culture d'avenir pour la région, qui est une culture d'avenir également pour la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais. La première cuvée, le retour du vin dans le Nord-Pas-de-Calais s'est fait en 2022. La première cuvée a été dégustée cette année en 2023. De même chez les Bretons. Forcément, les frontières ne s'arrêtent pas à la Manche et à la Belgique. Ça va continuer à monter plus haut. Donc ici, vous avez par exemple la remontée des cépages. Du côté de chez moi, vers le Pic Saint-Loup à Montpellier, on aura plutôt des cépages du Nord-Afrique. Du côté du Bordelais, on aura des cépages plutôt espagnols. Du côté de la région ici, on aura plutôt des cépages bordelais. Et ces cépages bordelais pourront remonter jusqu'en Normandie, voire même jusqu'au Royaume-Uni. Alors je les trouve un petit peu optimistes, cependant, dans cette carte. Mais voilà, l'idée, c'est de savoir que les cépages remontent et que le goût du vin va forcément être modifié, parce que le vin, lui, il est adapté à un terroir. Le terroir, c'est le climat, la plante et le sol. Donc si le climat évolue, le terroir évolue. Et ces vins ont déjà évolué. Puisqu'ici, vous avez une figure depuis 1984, les petits carrés, c'est le degré potentiel d'alcool des vins du Languedoc. J'aurais pu reprendre la même figure pour la région ici, j'aurais pu prendre la même figure pour Cognac, pour Bordeaux ou pour l'Alsace. On a gagné 2 degrés d'alcool dans le vin depuis 1984, donc le goût du vin à l'époque 1984 n'est plus du tout le même que celui qu'on a maintenant. On a un pH qui augmente, une acidité totale qui diminue, donc le goût du vin continue à changer. Pour un agroclimatologue, le degré potentiel du vin, c'est la sécheresse. Je vais vous parler de la grenadine. Si vous prenez de la grenadine, vous la mettez dans un verre d'eau et vous mettez un tout petit peu d'eau. C'est très sucré. Si vous mettez plein d'eau, c'est très dilué, c'est moins sucré. Dans la vigne, ce qui fait l'alcool, c'est le sucre. C'est-à-dire que si vous avez une grappe qui pousse pendant une sécheresse et qui ne se remplit pas beaucoup d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau, eh ben le sucre dans la grappe va être très concentré. Donc quand vous allez passer en vinification, il y a beaucoup de sucre. Donc ça fait beaucoup d'alcool. C'est la hausse de la sécheresse qu'on voit sur cette figure, simplement qu'il y a moins d'eau pendant le remplissage de la grappe, donc des sucres plus concentrés. Et d'autres aspects assez positifs sur l'évolution du climat, malgré, je rappelle qu'il y a quand même des événements négatifs, mais on a par exemple l'arrivée de l'abricot à partir de 2080. Alors ça paraît très loin, mais ça va très vite. Parce qu'un arbre, c'est 30 ans d'exploitation. Donc quand on a des abricots qui peuvent pousser en 2080, en général, il faut les planter en 2050. Donc l'abricot va apparaître à partir des années 2050 dans la région. Et donc, qui remonte, l'abricot ici, c'est la variété rouge du Roussillon, qui remonte sur le sud-ouest de la France et qui disparaît du Roussillon, sa région d'origine, puisqu'il fera plus suffisamment froid en hiver. Alors vous avez ici, dans la région de la vigne, vous avez aussi des arbres, la forêt de Sologne. Donc il y aura aussi des évolutions des rythmes saisonniers qui sont déjà observés. Sur cette figure-là, on a la vendange à Beaune depuis 1371. Donc ça date, ça fait 800 ans. Et donc vous avez les dates de vendange ici depuis 1371 avec un décrochage complet ici des vendanges puisque les vendanges sont reliées à la température. Plus il fait chaud, plus on vendange tôt. Donc là, on voit bien que les vendanges, parfois, on peut les faire maintenant fin août du côté de Beaune. Et il y a quelques évolutions climatiques naturelles qu'on voit, des cycles ici, qui sont dus à des variations climatiques terrestres tout à fait normales. Cette baisse de la date de vendange est reliée au changement climatique. Si je peux aller encore plus loin, cette fois-ci, je vais au Japon et je prends la date de floraison du cerisier. La date de floraison du cerisier au Japon est bien depuis 812, donc depuis plus d'un millénaire, avec des variations à plus long cycle que vous voyez, donc des variations cycle court et des variations cycle rapide qui correspondent à des climats, des variations climatiques normales de la Terre. Et d'un coup, depuis l'industrialisation, il fait de plus en plus chaud et la date de floraison, maintenant, elle se produit fin mars, alors qu'avant, elle se produisait plutôt mi-avril. Donc on a gagné à peu près 15 jours Si maintenant on part du côté de Genève, parce qu'à Genève, ils font toujours des choses très bizarres, ces Suisses, ils ont un marronnier en face de la maison de ville de Genève qui décrète l'arrivée officielle du printemps quand il fleurit. En fait, c'est parce qu'il fallait passer d'une taxe à l'autre à l'époque, dans les années 1800. Et donc, pour dire quel jour était le printemps, eh bien, il fallait regarder l'apparition de la première fleur dans un marronnier en face de la maison de ville de Genève. Et donc, ils ne savaient pas à l'époque, mais ils ont tracé une série historique de floraison. Depuis 1820, on a les 1819, on a les dates de floraison, et maintenant, on voit bien qu'on a gagné un mois dans la floraison. Et même en 2002, il me semble, on a fleuri avant le 1er janvier. On a fleuri le 29 décembre. L'arbre a fleuri le 29 décembre, donc officiellement, d'après leur législation, le printemps est arrivé en Suisse le 29 décembre. Bon, ceci dit, il a quand même fait froid plus tard dans la saison. Voilà pour les évolutions saisonnières. Je vais passer rapidement sur trois questions sociétales qu'on voit souvent passer dans les médias, et j'aimerais bien vous passer aussi l'avis d'un agroclimatologue, notamment par rapport à la consommation de viande. Là, on sort de la production agricole, maintenant on passe à la consommation. Parce que l'agroclimatologie, ce n'est pas seulement l'impact du climat sur l'agriculture, c'est aussi de l'agriculture sur le climat. Sur la consommation de viande, 19% des gaz à effet de serre sont issus de l'agriculture, viande comprise. Donc 19% des émissions de gaz à effet de serre nationales sont issues de l'agriculture. Ceci dit, c'est pour nous nourrir. Donc on ne va pas descendre à zéro parce qu'il faut bien qu'on mange. Il y a d'autres aspects comme par exemple la consommation de choses sur Amazon ou des choses qu'on importe ou des choses qui sont peut-être moins essentielles que manger, sur lesquelles on peut faire des efforts et les transports sont compris dedans. Donc dans ces 19%, 50%, 48% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est l'élevage. Donc la moitié des gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est l'élevage. Donc quand on lit le rapport du GIEC, il faut diviser par 3 notre consommation de viande rouge. Voire, si on regarde le rapport du GIEC, il faut devenir végétarien. Mais un agroclimatologue, il va vous dire que c'est plus complexe que ça. Parce qu'en réalité, la viande, elle permet aussi la fertilisation du sol, par exemple pour les sols bio. Avec les déchets organiques des animaux, on va fertiliser le sol. La production de viande peut aussi se faire sur des territoires où on a tout intérêt à ne pas mettre de maïs ou de blé, comme les zones humides, les alpages, je vois mal faire du blé sur le Mont Blanc, les bocages aussi, qui sont des zones de biodiversité exceptionnelles, avec des haies partout. Il ne faut surtout pas retourner le sol des prairies qui stockent du carbone pour faire des grandes cultures. Donc, pour exploiter ces terres-là et les entretenir, il n'y a que les animaux. En fait, l'élevage est à relier et est au cœur de l'agriculture. Le système polyculture-élevage permet d'avoir des engrais sans passer par des engrais chimiques. Donc oui, il faut réduire notre consommation de viande, mais il y a deux voies. Et ça, c'est à vous de choisir. C'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire parce que c'est un sujet que je considère personnel. Le premier, c'est de passer au véganisme, ne plus manger de viande rouge ou d'autres types de viande. Bien sûr, c'est celui qui va moins produire des gaz à effet de serre. Mais une société 100% végane est utopique, par choix personnel, mais aussi utopique parce que l'agriculture ne pourra pas suivre, l'agriculture, la production végétale ne peut pas suivre sans la viande. Donc pour réduire ceux qui veulent continuer à manger de la viande rouge, il faut diviser par 3 sa quantité. Ça, c'est, on va dire que c'est obligatoire pour respecter nos enjeux climatiques. Donc soit on peut passer à la viande blanche, au fromage ou aux œufs pour avoir des protéines végétales, animales, ou soit on continue à manger de la viande rouge, mais achetons-la française, puisque les Français ont des émissions de gaz à effet de serre de la viande moins importantes que certains autres pays développés, puisqu'ils apportent essentiellement du fourrage aux animaux. C'est essentiellement produit en prairie. Et quand on est en prairie, on a moins de gaz à effet de serre qui est issu de l'élevage, puisque la prairie stocke elle-même du carbone par la photosynthèse. Donc, deux voies, soit le véganisme, ou soit réduire la viande en mangeant de la viande plutôt d'origine française au lieu de la prendre dans les plats préparés. Et tout ça, ça permet de soutenir la production française. Ça permet, il faut favoriser l'achat de viande majoritairement issue de fourrage, donc des prairies françaises. Embarquer le consommateur également en intégrant plus de protéines végétales et plus de choix dans les restaurants notamment. Ne oser changer de dénomination, plutôt appeler galette de légumes au lieu de steak végétal, parce que la galette de légumes, on assume de manger une galette de légumes. Le steak, je trouve que ça se rapproche trop du régime de viande. Développer les filières d'approvisionnement, notamment pour le pois chiche, qui est une culture adaptée au climat futur. Bref, il y a aussi des aspects à travailler sur la consommation. Le gaspillage alimentaire, et puis ensuite je parlais du local, et j'aurai terminé, on passera aux questions. Le gaspillage alimentaire, si c'était un pays du monde, si en gros on enlevait tout le gaspillage alimentaire de chaque pays, on l'unifiait et puis on considérait que c'était un pays, ce serait le troisième émetteur de gaz à effet de serre mondial. 8 à 10% des gaz à effet de serre du monde sont du gaspillage alimentaire, des gaz en fait à effet de serre qui ne servent à rien, qui sont produits pour rien. Simplement que quand on va dans les magasins, nos pommes sont magnifiques. Les pommes moches, on les met en compote ou on les jette. Simplement que quand on va dans un magasin acheter un plat préparé, bien calibré, des frites bien calibrées, bah, celles qui n'étaient pas calibrées, et bah, on ne va pas forcément les utiliser. Donc en fait, on a une société de luxe au niveau alimentaire et on ne mange plus les abats des animaux, on ne mange plus les produits moches, on se contente du beau. Et le beau n'est pas forcément le plus bon, d'ailleurs. Donc troisième émetteur mondial, et c'est équivalent du transport routier mondial. Ça veut dire qu'on pourrait s'affranchir de tout le transport routier mondial si on évitait le gaspillage alimentaire. Donc pour ça, il y a plein de solutions. Retrouver les liens avec le milieu agricole et apprendre à cuisiner pour réintégrer dans notre façon de penser que c'est important la production alimentaire. Deuxième aspect, oser le moche. Améliorer le stockage des produits pour éviter les pertes en cours de route. Faciliter les dons. Favoriser l'achat en circuit court pour éviter les intermédiaires et les pertes en chemin. Et puis réapprendre à cuisiner, je pense que c'est le plus important. Réintroduire les cours alimentaires à l'école et apprendre à cuisiner. Parce que quand on cuisine un bœuf bourguignon et qu'il reste un petit bout, on le met dans un Tupperware. Par contre, quand on a une pizza surgelée à 1 euro et qu'il reste un petit bout, on la donne au chien ou on la jette, puisqu'on n'a pas forcément cet attachement, on perd cet attachement à notre matière première agricole. Et je terminerai sur le local, parce qu'ici, il y a beaucoup de préjugés sur le local en disant que quand on achète local, on fait du bien au climat. En réalité, c'est faux. Parce que quand on achète local, on ne fait pas forcément du bien au climat. Il faut regarder surtout comment la matière première est produite. Donc vous avez ici, c'est en anglais, vous avez ici les différentes productions. Les premières productions, c'est les grandes cultures. Le riz, les pommes de terre, le blé, le maïs. Quand c'est en... Le transport, il est où ? Ici. Quand c'est en marron, c'est les gaz à effet de serre du transport. Donc vous voyez bien, les gaz à effet de serre du transport sont assez faibles par rapport à la barre verte qui est le type de production. Donc quand vous achetez du blé qui vient de l'autre bout du monde, il peut être moins émetteur de gaz à effet de serre qu'un blé qui vient de France qui est mal produit. En fait, acheter local, c'est acheter local et regarder comment c'est produit pour faire attention au climat. Par contre, acheter local, c'est très bon pour l'économie locale et pour faire vivre les agriculteurs. Mais pour le climat, pour vraiment faire attention, il faut regarder ce qu'on achète en local. Alors c'est un petit peu moins vrai cependant pour les fruits et légumes ici, parce qu'il y a plus de pertes en chemin et que le blé, on peut le mettre dans un conteneur. Les fruits et légumes, on ne peut pas empiler toutes les pommes ou empiler tous les raisins, ils vont s'écraser. Donc on a quand même pas mal de packaging avec. Donc vous avez ici le packaging, on le retrouve, et puis les transports sont quand même plus importants. Donc au moins sur la matière première agricole, ce n'est pas forcément bien d'acheter local si on ne regarde pas comment c'est produit. Pour la viande, c'est exactement pareil, sauf que là, la viande, on a la barre jaune qui correspond aux émissions de méthane. Donc le gaz à effet de serre sont majoritairement dus aux émissions de méthane. Donc encore une fois, le local, il est bon pour l'économie et les activités du territoire, les pertes, pour réduire la perte du goût des aliments, puisqu'on a moins d'intermédiaires, moins de changements de température, et la consommation se fait plus proche de la récolte, donc on a moins de perte de goût par ancienneté des produits, et on peut favoriser les qualités reconnues et traditions d'un terroir, forcément celle qui est française. Mais il n'est pas forcément meilleur pour le climat si on ne regarde pas comment c'est produit. Et donc pour améliorer le local, là je travaillais à l'époque pour Lidl pour travailler sur le local, donc il faut favoriser aussi l'agriculture stockant du carbone. Il faut que les entreprises qui achètent local soutiennent la transition, donc là c'est les grandes et moyennes surfaces, soutiennent la transition vers des agricultures plus vertueuses pour le climat en achetant de façon plus chère, on va dire, aux agriculteurs qui font évoluer leur agriculture. Et puis je terminerai aussi, encore une fois, par la biogéographie, donc ne pas hésiter à soutenir les nouvelles cultures qui se font, comme Andros qui actuellement a développé un beurre de cacahuète. Et dans l'avenir, je terminerai sur ça, on aura peut-être des plats régionaux qui seront typiques mais qu'on ne connaît pas encore. Par exemple, la bière de Toulouse au sorgho, l'abricot sec d'Agen, pas le pruneau, l'abricot sec. On aura peut-être aussi une autre variante de la choucroute qui introduira des produits qui se cultiveront local. On aura du houmous de Lyon, peut-être IGP. On aura des vins de l'île de Gien ou des noms de l'île de Gien, de l'île de Sein au bord de la Bretagne, peut-être un AOC. Donc en fait, dans l'avenir, notre qualité française ne sera plus la même. Et c'est aux agriculteurs de recréer avec beaucoup d'optimisme les produits du terroir de demain. C'est à nous, en fait, jeune génération, de recréer l'agriculture de demain tout en favorisant la qualité française. Je terminerai par le This is the end. C'est juste la fin du diapo, mais ce n'est pas la fin du monde. Merci. Il me semble qu'on a le temps pour quelques questions, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à me contredire si vous avez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, sauf sur le réchauffement du climat.
Merci beaucoup pour cet exposé riche et accessible. Il y a peut-être un thème qui n'a pas été abordé, c'est les conflits d'usage, parce que j'imagine qu'on ne peut pas augmenter les surfaces agricoles. L'aviation et la voiture comptent beaucoup sur le e-fuel pour être décarboné. Et vous parliez du colza qui fait des jolis paysages dans le Loir-et-Cher au printemps. Mais par contre, le colza, c'est majoritairement, j'imagine, pour faire des e-fuel ou je sais pas trop comment ça s'appelle.
Alors c'est pas majoritairement, il faudra juste vérifier les chiffres, mais plutôt minoritairement, fait surtout de l'huile alimentaire. Mais ceci dit, la part des énergies vertes, dites vertes, parce qu'on peut mettre du vert partout, hein, même dans le logo de McDonald's, il est vert maintenant, il faut faire attention avec ça, puisque dans l'avenir, il faudra se nourrir, nos rendements ne vont pas forcément augmenter, avec une population française qui ne va pas augmenter, contrairement à d'autres régions du monde. Il faut aussi que dans la législation, on puisse fixer un seuil maximum de pourcentage de terres allouées en dehors de la production alimentaire animale ou humaine. Et ça, pour moi, c'est plus de la législation, c'est important. C'est déjà fixé, notamment pour l'énergie verte de production de gaz naturel par les méthaniseurs. C'est les méthaniseurs. On a, il me semble, que 5% dans des cas exceptionnels, ou 8%, j'aurais pu, il faut vérifier aussi le chiffre. Ceci dit, c'est très faible de part qui va dans le méthaniseur qui aurait pu servir à un homme ou un humain. Avant, c'était complètement déréglé. On n'avait pas forcément le cas allemand. Il y a des maïsiculteurs qui, ça se vendait mieux le gaz. Donc, ils faisaient du maïs comme tous les ans, mais au lieu de le vendre au supermarché ou vendre pour nourrir les animaux, ils le mettaient dans le méthaniseur alors qu'il aurait pu servir à se nourrir. Donc ça, pour moi, c'est un aspect législatif pour freiner ces expansions-là. Mais en France, on adore l'administratif et le législatif, et je peux vous dire que c'est déjà en bonne voie, le méthaniseur s'est fait. Je ne sais pas si c'est fait, ceci dit, pour les biodiesels, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas si c'est fait, mais à mon avis, ça sera fait, parce qu'en France, on est quand même très très protecteur sur ces aspects-là, un petit peu plus que dans d'autres pays.
Oui, bonjour, excusez-moi.
Bonsoir.
Bonsoir. Moi, je suis forestier, pas agriculteur. Et je me posais la question sur l'état des sols forestiers. On a de plus en plus des problématiques, notamment au niveau des champignons, etc. Je me demande où on en est. Et on utilise des machines de plus en plus grosses. Enfin, d'après moi, on a du mal à considérer le sol comme autre chose qu'un support.
C'est étrange comme question, parce que moi, je m'étais dit que les sols des forêts étaient quand même ceux qui stockaient le plus de carbone par rapport aux grandes cultures, dans les observations que j'ai pu observer dans les années scientifiques. Alors, je ne pourrais pas vous dire comment évoluent les stocks de carbone dans les sols et la fertilité des sols forestiers, parce que dans le rapport de l'INRA 4 pour 1000, c'est un rapport sur le stockage du carbone dans les sols, ils ont considéré que le sol forestier restait stable et qu'il ne fallait pas faire des analyses dessus, et qu'ils ont fait plutôt sur la viticulture, l'arboriculture et les grandes cultures. Donc je ne pourrais pas vous dire dans quel sens ça évolue. Cependant, méfiez-vous, il y a quelque chose sur lequel il faut se méfier. C'est souvent, on nous dit, la surface forestière augmente en France. Ça, c'est un vrai fait. La surface forestière augmente. Mais dans quel état sont nos forêts ? Est-ce qu'on a de bonnes forêts avec une bonne surface forestière qui augmente ? Ou alors si nos forêts sont en lambeaux, mais la surface augmente quand même, donc on s'en félicite. En réalité, c'est un petit peu des deux. On a des forêts qui sont un petit peu plus... là, on a des mortalités, notamment des forêts. Enfin, un petit peu plus... Je sais que c'est soir optimiste, mais il faut dire les choses comme elles sont. En fait, on a une hécatombe dans nos forêts par rapport aux arbres. On a des pertes d'arbres qui sont de plus en plus rapides et qui s'accélèrent. Simplement que, comme le hêtre, le bouleau meurt de plus en plus vite, comme par exemple le hêtre, le bouleau, on sort de la biogéographie de ces espèces. La biogéographie, c'est l'aire de répartition. Le climat remontant par le sud, bah, y a un moment, en fait, c'est faux. Ces arbres vont forcément mourir, comme je vous ai montré. Ils vont être relégués dans d'autres régions et remplacés par d'autres essences que l'homme doit apporter parce qu'elles ne vont pas venir toutes seules en TGV. Sauf s'il y a un problème. Il faut parler de ces mortalités forestières et la Sologne que vous avez actuellement, eh bien, elle n'aura plus les mêmes essences à l'intérieur de cette forêt-là, puisque si l'homme apporte ces nouvelles espèces et qu'il aide la forêt à se régénérer, je sais que ce n'est pas forcément le cas, l'avis de tous les scientifiques, moi je considère que l'homme doit intervenir quand même, eh bien, on pourrait régénérer la forêt avec de nouvelles essences. Voilà mon avis à ce sujet.
Moi, je m'interrogeais plus sur l'état des champignons, tout ce qui est mycélium, etc. Est-ce qu'eux ne souffrent pas trop, justement ? Et on connaît leur rôle essentiel quoi, au niveau forestier, au moins.
Alors, peut-être que je vais dire une bêtise, parce que je n'ai pas étudié le sujet, mais ce que je vois, c'est que quand on a des défoliations dans les forêts en plein été, défoliation, c'est perdre des feuilles, en plein été, parce qu'il fait trop sec. On a observé, par exemple, des chutes de feuilles là, cette année et l'an dernier, sur les arbres, en plein été, et qui reprenaient parfois en automne, avec une floraison automnale assez incroyable sur certains arbres fruitiers. Et bien, en fait, c'est que les rayons solaires, quand il y a moins de feuilles, ils vont arriver plus au sol. Donc on a un échauffement interne de la forêt. Cet échauffement interne de la forêt, bah, il fait que les arbres souffrent plus, donc perdent encore plus leurs feuilles. C'est une boucle de rétroaction positive, en fait. Et donc les sols peuvent subir aussi cet échauffement et donc être un petit peu déstabilisés. Vraiment, l'objectif de la forêt, c'est de remettre des essences qui vont être plus adaptées pour qu'on ait toujours cet ombrage, pour que le microclimat de la forêt ne soit pas altéré par les rayons solaires qui vont plus à l'intérieur et réchauffer la forêt. Après, sur les mycéliums, je ne pourrai pas vous répondre plus précisément. Mais je me renseignerai.
Oui, bonsoir. Comment réagit le monde agricole quand vous faites ce genre de présentation ? Parce qu'il va falloir changer la consommation, la transformation, la production. Donc comment ils réagissent ?
Alors, il y a deux dates à retenir. C'est avant 2019 et après 2019. En 2019, on a eu un effet sèche-cheveux dans le sud de la France quand il a fait 46 degrés le 28 juin 2019 avec 40 km/h de Mistral. Je sais ce que je dis, j'habite dans cette ville où il a fait 46 degrés. Les végétaux ont brûlé. La vigne a brûlé, le laurier a brûlé, les cyprès ont brûlé, ont brûlé sur la face où il y avait le vent. On avait défoliation totale des vignes. Et là, les viticulteurs se sont dit, qu'est-ce qui se passe ? On a perdu 12% de la production de vignes juste dans la partie, surtout l'Hérault, mais c'est surtout la partie Est qui a été concernée, là où il y a le Mistral, 12% en 3 heures. Les vignes ont perdu leurs feuilles en 3 heures, elles ont cramé en 3 heures. Et là, ils se sont dit, c'est comme l'espèce la plus résistante de France, on va quand même se poser des questions si ça arrive sur un blé, un maïs, là, ils vont complètement mourir très rapidement. Et là, ils se sont dit, il y a un problème. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu ça. Ensuite, il y a eu le gel d'avril 2021. 4 milliards d'euros de dégâts, alors qu'on pensait qu'en faisant une société développée agricole, on ne pouvait pas avoir des milliards d'euros de dégâts. Et bien là, on a eu la plus grosse catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on se disait qu'on avait quand même fait pas mal de progrès à ce niveau-là. Et bien là, ils se sont dit, viticulteurs, arboriculteurs, encore une fois, on ne va pas y échapper, on est vulnérable. Et en fait, c'est en se prenant des murs, malheureusement, que les agriculteurs ont réalisé que l'agriculture française était aussi vulnérable au changement climatique. Et qu'avant, peut-être que les seuils de chaleur n'étaient pas encore atteints pour faire des stress sur les plantes, mais maintenant ils le sont. Et donc depuis ces années-là, 2019-2021, les agriculteurs sont parfaitement conscients que maintenant on peut être impacté par le changement climatique. Avant, ils étaient conscients qu'il existait parce qu'on voyait la vendange évoluer, les dates de floraison évoluer, mais ça ne provoquait pas trop de pertes de rendement. Maintenant, ça en provoque, donc maintenant c'est une fourmilière. Tout le monde réfléchit à trouver des solutions et les agriculteurs en général, quand ils cherchent des solutions, ils en cherchent vraiment sur tout type de sol, tout type de plantes. Donc je n'ai pas d'inquiétude par rapport au milieu agricole sur le fait de se renouveler. Moi, ce qui m'inquiète derrière, c'est plutôt l'aspect politique. Puisque l'agriculteur sait s'adapter, et d'ailleurs, en réalité, c'est le métier qui essaye d'évoluer le plus possible. Il réfléchit tout le temps. Ce n'est pas le cas de tous les agriculteurs, mais en majorité. En tout cas, ceux qui viennent en conférence, en général, c'est ceux qui s'y intéressent. Les autres, je leur parle pas. Eh bien, en réalité, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la politique. Puisque le politicien, le ministère de l'Agriculture et l'ensemble des chambres d'agriculture, ils réfléchissent beaucoup sur les réserves de substitution. Vous pourrez me poser la question après, je sais que je ne vais pas y échapper. Et ils réfléchissent beaucoup aux évolutions génétiques variétales. Donc toujours un blé, mais plus résistant, ou toujours un maïs plus résistant. Par contre, ils ne réfléchissent pas suffisamment. C'est le court terme. C'est vraiment le court terme. Ce que j'ai dit, c'est la politique du pansement. Dès qu'il y a un problème, je verse des millions, mais je ne résous pas le problème à l'origine. Et donc l'an prochain, je reverse des millions parce que le problème s'est reproduit. Donc en fait, il n'y a pas de politique long terme. Jusqu'à il y a deux semaines, puisqu'il y a deux semaines, en ayant postulé au ministère de l'Agriculture sur une étude qui doit être faite sur l'évolution des biogéographies des fruits et légumes français pour commencer à créer un embryon de filière pour 2050, j'ai été retenu pour faire cette étude. Donc déjà, je peux vous dire qu'il y a déjà un effort qui a été fait de considération 2050. Avant, c'était vraiment considération suivant les prix du marché dans l'année en cours. Donc on a une évolution politique, certes, très 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 en retard et très très lente pour l'instant, mais il y a ceci dit, cette chose positive qu'il faut quand même retenir. Donc je suis quand même positif pour les agriculteurs, ils cherchent des solutions. Après, il faut un leader quand même, un minimum agronomique, charismatique, qui puisse mener vers l'évolution en 2050 avec les moyens sur la table financiers. Parce que pour créer une filière agricole, je vous ai montré que les filières, c'est production, consommation, stockage, réfrigération, transformation, enfin c'est tout. C'est vraiment de l'assiette jusqu'à nos bouches, c'est la filière agricole. Il faut 15 ans minimum pour avoir un embryon de filière et 30 ans pour avoir une filière qui puisse vendre dans le département ou vendre au niveau du territoire, voire même un petit peu plus pour l'international. Donc 30 ans, c'est 2050, c'est aujourd'hui. En fait, nos filières, on doit y penser aujourd'hui. Nos abricots secs d'Agen, notre bière de sorgho à Toulouse, il faut y penser aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça va prendre du temps jusqu'en 2050 à s'installer et faire changer les consommateurs dans leurs habitudes et faire changer les industries agroalimentaires dans les contrats qu'ils ont sur le territoire pour acheter ces matières premières. Plutôt acheter des cacahuètes en France, par exemple, pour faire du beurre de cacahuète, que de l'acheter à l'étranger. On aura peut-être le magret de canard au beurre de cacahuète bientôt, je ne sais pas. C'est peut-être un plat national qui sera créé d'ici 2020. Bon, ça doit être forcément un peu dégueulasse. Je préfère mieux le magret de canard au pruneau d'Agen ou je sais pas quoi maintenant. Mais voilà, il y aura peut-être des nouvelles choses qui vont se créer qu'on ne connaît pas. Bon, c'était une parenthèse, mais vraiment, pour moi, c'est plus un combat politique, puisque au niveau agricole, je sais qu'ils peuvent suivre sur le terrain. En réalité, la problématique n'est pas la taille de l'exploitation, mais plutôt comment on produit l'agriculture. Parce qu'on peut avoir une exploitation de grande taille, mais qui produit les choses bien. À 1000 ou 2000 hectares, si vous faites de l'agriculture de conservation des sols sur 1000 ou 2000 hectares, ça peut être bien. Mais en général, les industries les productions qui font 1000 ou 2000 hectares, ils sont plus tournés vers la production, plus que la protection de l'environnement. Maintenant, le but, c'est de faire évoluer l'ensemble de l'agriculture en rajoutant des éléments qui permettent de protéger le sol et protéger le climat. Donc, par exemple, comme je disais, sur l'agriculture de conservation des sols, pour moi, tout type d'agriculture doit commencer à diminuer, voire ralentir sur le labour, doit commencer à mettre des couverts intermédiaires pour protéger son sol et considérer son sol comme le cœur de son métier, plus que le grain. En fait, c'est plus son sol, le cœur de son métier. Donc tous les types d'entreprises, pour moi, il faut absolument qu'elles évoluent. Parce que de toute façon, si les entreprises n'évoluent pas et qu'elles ne remettent pas le sol au cœur de leurs intérêts, leur sol va s'affaiblir, il va moins avoir des réserves d'eau et elles vont avoir des pertes de rendement. Donc ce qu'elles font actuellement, c'est qu'elles produisent, elles sont contentes, mais dans l'avenir, elles ne sont pas rentables. Et donc forcément, elles vont devoir évoluer. Vu qu'elles sont tournées vers la rentabilité, elles vont forcément devoir évoluer pour faire face au changement climatique. Donc là, j'ai parlé du sol, mais il y a aussi découper les parcelles pour faire bloquer le vent, des haies, aussi les écosystèmes. Mais en parallèle, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il faut aussi que la politique de rémunération des agriculteurs évolue. Parce qu'en réalité, pour l'instant, la rémunération des agriculteurs, à part la PAC, mais la rémunération des agriculteurs, elle est basée sur ce qu'ils produisent, la quantité qu'ils produisent. Donc forcément, on a tendance à vouloir produire plus pour gagner plus. En parallèle, si jamais on a un agriculteur qui fait l'effort de mieux gérer son sol, qui stocke du carbone dans son sol, qui préserve la biodiversité avec des haies, des arbres isolés, etc., qui réduit la taille de ses parcelles, ça lui demande du travail aussi pour entretenir ses haies. Donc il faut aussi savoir rémunérer l'agriculteur sur les services écosystémiques, les services qu'il donne aux systèmes agricoles, à l'environnement et à la campagne, en réalité sur nos paysages. Il faut sortir de cette rémunération uniquement basée sur le rendement et il faut introduire des rémunérations sur le kilomètre de haie, sur le nombre d'arbres plantés, sur la remontée de la fertilité de son sol, etc. Ça, c'est sur le stockage du carbone. C'est des rémunérations supplémentaires qui vont l'engager à produire différemment. Donc c'est comme ça qu'on peut briser aussi un système qui, il faut le voir comme une grosse boule qui roule et qui ne s'arrête pas, puisqu'il n'y a rien qui barre son chemin. Et le changement climatique peut barrer son chemin, mais il faut prendre les bonnes décisions pour éviter de retourner sur un autre système qui soit adapté au changement climatique, mais qui ne préserve pas le milieu. Donc c'est à nous maintenant d'introduire dans ces évolutions de système pour le climat aussi des évolutions sur les écosystèmes, la biodiversité, tout ça. Parce que j'ai beaucoup parlé du climat, mais il y a tout le reste.
On voit que l'évolution des rendements a augmenté à partir de 1960. Donc c'est les lois d'orientation de 60 qui ont aussi déterminé le système agricole. Et là, à l'heure actuelle, quand vous parlez de politique, il n'y a aucune décision qui est prise justement pour amorcer une nouvelle évolution pour les années à 2050.
On a eu des ambitions après la Seconde Guerre mondiale. En réalité, on a eu des ambitions. On a placé plusieurs milliards et des milliards et des milliards d'euros dans la génétique, la chimie et la mécanisation en nous disant que c'était pour sortir de la famine, ce qui était le cas. Mais en fait, en réalité, les politiques de l'époque ont réalisé que quand on avait le ventre plein, on était moins violent, politiquement parlant, ou entre nous-mêmes, hommes, ou entre pays. Quand on n'a pas faim, on ne va pas se taper dessus. On se tape moins dessus. C'est ce qui s'est passé avec les printemps arabes. Le prix du pain a augmenté. C'était l'élément déclencheur avec toute la politique qu'il y avait avant qui a fait que tout s'est embrasé, parce que c'est simplement qu'il y a eu une sécheresse en Russie. Le prix du pain a augmenté parce que la Russie avait pris les marchés. Comme je vous avais dit, la géopolitique a changé les marchés du Nord-Afrique. Et le prix du pain a augmenté parce que la Russie ne vendait plus son blé. Donc on a eu des tensions sociales. Donc en fait, quand on n'a pas faim, il y a moins de tensions sociales. Alors ceci dit, il peut y en avoir sur d'autres sujets, sur les retraites et tout, il y a quand même des tensions. Mais ceci dit, on est moins violent et on se fait moins la guerre. Donc en donnant à manger et surtout à boire au peuple à l'époque, le vin était à la cantine, je le rappelle, eh bien, on assagit les esprits. Donc en fait, cet investissement agricole, il a été surtout fait dans un terme politique pour assagir les esprits. Il a été fait d'un coup dans toute l'Europe. Alors, maintenant, pour faire face au changement climatique, il nous faut quelque chose d'aussi ambitieux, en fait. Il nous faut un plan. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petits dossiers, des petites études, on est content, ça, on met ça dans l'armoire, et puis on ne change pas grand-chose. C'est bien de faire des études, mais après, il faut l'appliquer sur le terrain. Donc pour l'instant, on a plus cette politique de grands travaux, du moins dans la campagne. On a le Grand Paris, par exemple, qui se fait, le plateau de Saclay avec plein d'écoles qui se créent. Mais dans la campagne, on n'a plus cette politique des grands travaux pour une ambition, en fait, pour créer ces filières-là. Et pour créer de nouvelles filières agricoles, ce n'est pas juste en mettant 3 millions d'euros, quoi. C'est 30 ans et des milliards d'euros tous les ans. Et donc, il nous faut des grands plans, en fait, agricoles pour faire face au changement climatique. Et malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement en France et ce n'est même pas le cas en Europe, parce que quand on voit la remontée des climats, donc nos cultures vont aller en Allemagne et celles d'Allemagne vont aller en Scandinavie, on n'a même pas encore, on n'a jamais parlé de ça en fait dans les réunions. On n'a même pas vu qui va reprendre quelle culture parce que du coup le climat le permettra. Enfin, on ne l'a pas. Il y a juste la Russie qui sait très bien ce qu'elle fait. Il y a juste la Russie qui a structuré sa filière de blé et qui maintenant a la possession des frigos et peut jouer sur les marchés mondiaux et puis faire pression sur certains pays, parce qu'elle a, dans la géopolitique mondiale du blé, beaucoup plus de poids qu'elle n'avait avant, et elle le sera dans d'autres cultures également. C'est la seule qui a fait quelque chose. Et malheureusement, c'est pas nos amis. Enfin, à ma connaissance. Voilà. On verra dans quelques années.
Mais en même temps, les rendements, s'ils ont augmenté, c'est parce que justement, c'est la chimie, et puis...
C'est tout. En fait, ils ont créé une filière, oui, parce que le climat le permettait.
Oui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut vraiment faire quelque chose, c'est sauver la terre, en fait. C'est amener une terre qui soit meilleure et qui produise.
Ah, ça, c'est
vraiment
la base.
C'est la base.
La base, il faut que notre terre soit meilleure, parce que notre terre qui est meilleure, c'est une terre qui stocke plus d'eau. Mmh. Bah, forcément, faire face au changement climatique, il faut plus d'eau dans notre sol. Et après, on va ramener aussi du nouveau matériel végétal. Mais si on ne change pas nos pratiques sur le sol et qu'on rapporte du nouveau matériel végétal, ça ne va pas forcément améliorer les choses. Mmh. Sur le long terme, du moins. Donc il faut absolument changer nos pratiques sur le sol, que notre sol redevienne notre base. Là, je parle beaucoup du sol, de la fertilité du sol, de la biodiversité du sol. Pour moi, c'est l'un des aspects peut-être les plus importants pour faire face au changement climatique. Voilà. Et c'est, vous parlez de l'agro-industrie. En tout cas, l'agro-industrie, pour l'instant, la quantité de la fertilité des sols diminue, la matière organique diminue dans le sol. L'objectif, maintenant, c'est de la remonter, que ce soit agro-industrie ou non, ce sera obligatoire. Alors, quand on passe d'une agriculture conventionnelle, labour régulièrement, à une agriculture de conservation des sols, il faut un minimum 5 ans pour voir les premiers effets et un minimum 7 ans pour retrouver un équilibre avec son sol. Donc, c'est-à-dire que on a du retard. Je peux vous dire que moi, je suis passé, il n'y a pas très longtemps, j'ai 34 ans. J'ai eu ma thèse à 25 ans et mon diplôme d'ingénieur à 22 ans, ou 21, je ne me rappelle plus. Eh bien, quand on m'apprenait, ne serait-ce qu'il y a 10 ans encore, ce n'était pas du tout la même approche. On intégrait un petit... Moi, j'ai pris agriculture-environnement. C'était grande culture-environnement, mais j'ai plus vu de grande culture que d'environnement. Ceci dit... Les choses évoluent, parce que maintenant, je vais faire des conférences chez les étudiants. Et ce n'est pas l'école qui change, c'est la force des étudiants qui fait changer. Parce que les étudiants qui arrivent, en fait, à l'école, il y a beaucoup plus de véganisme, il y a beaucoup plus d'environnementalistes. Et en fait, c'est eux qui font évoluer. Et les profs sont parfois désemparés. Ils m'ont appelé plusieurs fois, « Serge, il faut qu'on intègre de l'agroclimatologie parce qu'on nous le demande. » Et en fait, les profs ne sont pas formés pour ça. Donc, il y a toute une évolution à faire. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez surpris parfois de... On nous dit souvent la génération connectée, Netflix, Uber Eats, etc. Enfin, toutes les choses qui se passent en ville. Pour moi, parfois, je suis un peu étonné quand je vais dans les écoles d'ingénieurs. Ce n'est pas forcément le cas, que le cliché qu'on me donne des jeunes de l'écran, quoi. En réalité, les jeunes de l'école d'agro, ils sont quand même plus renseignés sur la protection maintenant que la production. Avant, quand on allait en école d'agro, c'était pour produire. Maintenant, c'est pour produire en protégeant. C'est différent.
Je suis désolé, il va falloir que l'on écourte un petit peu.
Je vais pleurer.
En tout cas, merci Serge. Merci. On peut l'applaudir, merci.